un espace ressources possiblement itinérant, à savoir proposer une petite webcam, du papier, un ordinateur pour à la fois les publics et les structures qui seront là et qu'elles puissent venir noter dans la journée un petit peu des ressources sur internet, des choses comme ça, qu'on perde pas tout ça et puis qu'on puisse ensuite le mettre sur internet par exemple. Et ça prend la forme d'une, on s'est dit qu'il fallait que ça soit un peu ludique, ça prend la forme d'un vaisseau, d'une capsule spatiale qui est en train d'être confectionné à cet instant même.
Il kiffe ça.
par Galad et Margot qui sont à la MJC.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents.
Bonsoir, il est 19h03 et on est lundi, c'est l'heure du Canu Info. On est désolé, on a dû couper Honneur du Prolétariat juste avant. Il y a eu des soucis techniques à la prise d'antenne de l'émission encore d'avant. Donc si vous voulez écouter le podcast, c'était une émission de mai 2014, mais j'ai pas la date exacte. Quelqu'un là ? Non, pas du tout. Bon, il faut aller chercher dans les tréfonds des internets.
Et donc, Radio Canu, c'est la plus...
Rebelle des radios.
102.2.
On allait oublier. On va à l'international vous parler d'un étrange référendum en Suisse autour de la question du nucléaire. Puis, on ira aux États-Unis, à la Maison-Blanche, en crise. Bien sûr, ça est un sujet lié à Trump. Ensuite, on ira toujours avec Trump en Arabie Saoudite et en Israël. Après, on va vous parler un peu de... Ah non, j'ai oublié, on a interverti de sujet. Donc, avant Trump et les États-Unis, on vous parlera de Barcelone et Milan, où de grosses mobilisations pro-migrants sont intervenues récemment. On ira aussi au Bangladesh, où comme en Tchétchénie, les homosexuels sont durement attaqués, voire assassinés. On passera au national avec encore un sujet sur l'homophobie. Et on parlera de Cyril Hanouna. Ensuite, on ira... Non, ça ne le fait pas. On ira dans le quartier de la Chapelle à Paris où les femmes elles sont victimes de harcèlement et que c'est des...
Médiatique.
De harcèlement médiatique, notamment, oui. Et on ira aussi à GMS, dans la Creuse, à la Souterraine, pour suivre la suite de nos héroïques syndicalistes qui essayent de sauver leur boîte. Puis on parlera du PS et ses plans B démocratiques. On continuera avec le PS et Macron, le monarque. On ira faire un petit clin d'œil et un petit surtout hommage, un grand hommage à David Pujadas qui quitte le JT de France 2. On continuera avec le JT de France 2 et Michel Field qui saute lui également.
On ira volontairement ensuite, lui.
Volontairement lui. Bon.
Presque.
Ouais. Il y a ensuite, La Poste offre de nouveaux services, on en parlera. On ira voir le ministre de la Culture, Blanquer. Puis,
De l'éducation, mais...
De l'éducation.
Voilà. Mais il éduque à la culture.
Non, là, c'est parce que la culture, c'est une meuf qui s'occupe aussi d'éducation, donc on mélange tout, quoi. Le Jean-Marc Ruyant, condamné à nouveau. La loi Travail 2, le retour. Et au local, on vous parlera de Gérard Collomb, du barbecue pour la justice pour Mehdi, qui a eu lieu ce dimanche à Vonvelin. Des 40 ans de Radio Canut, sur lequel on reviendra brièvement. Et des Fezzins où les grévistes sont toujours en grève et ont reconduit pour une semaine supplémentaire leur grève.
Ça fait beaucoup de grèves.
Et on finira par le traditionnel agenda.
Alors, niché dans les montagnes, la plus parfaite des démocraties européennes, dont certains cantons ont quand même attendu 1992 pour accorder le droit de vote aux femmes, la Suisse, patrie du chocolat, de la délation, de l'or des juifs et plus généralement de l'argent sale, a par référendum accepté à 58,2% une nouvelle loi sur l'énergie interdisant les nouvelles centrales nucléaires, soutenant les énergies dites vertes et réduisant la consommation énergétique. Il n'y a eu que 42,3% de participation, un chiffre dans la moyenne des scrutins sur les deux dernières années, un chiffre faible donc, étant donné qu'on leur demande de voter 3 à 4 fois par an pour tout et n'importe quoi. Alors la Suisse compte aujourd'hui 4 centrales pour 5 réacteurs qui produisent un tiers de l'électricité du pays. Après Fukushima, et pour parer au risque terrible d'un tsunami chez les Helvètes, la décision de sortir du nucléaire vers 2034, tout en précisant que ce n'était qu'indicatif, étant donné que pour le nucléaire, on n'est pas à un ou deux millénaires près. Donc concrètement, la centrale de Mühlenberg, mise en service en 1972, sera définitivement déconnectée du réseau suisse en 2019, comme c'était déjà prévu depuis 2015. Mais alors, qu'est-ce que ce référendum va changer ? Eh bien, rien du tout. Sinon, ce vœu pieux que les Suisses vont diminuer leur consommation d'électricité. C'est un peu comme leurs voisins français, finalement. Tant au niveau du référendum que de la démocratie que du nucléaire. Rappelez-vous comment fonctionnent ces si parfaites démocraties qui s'exportent à coups de canon. Les Français avaient voté non pour le référendum constitutionnel européen, c'est passé quand même. Ils avaient annoncé la diminution du nucléaire, la fermeture de Fessenheim. Fessenheim reste ouverte. Le Premier ministre est un ancien lobbyiste d'Areva et le président se déplace direct au Mali pour faire une guerre sale visant à sécuriser, entre autres, l'exploitation de l'uranium. Ah, la démocratie, Athènes et ses 140 000 esclaves. Bon. Même si ce n'est qu'un effet d'annonce, on peut saluer le débat public en Suisse qui aboutit à une votation qui condamne la nucléocratie. Et on peut se marrer aussi. Car quand bien même les Suisses ne se chaufferaient pas quand bien même les Suisses ne se chaufferaient qu'aux gruyères, quand une centrale nucléaire française explosera, le budget par exemple, ils auront beau faire une votation pour refuser le visa au nuage nucléaire français, il ne s'arrêtera pas comme en 1986 aux frontières. Surtout, quand bien même l'humanité entière ferait preuve d'un peu de bon sens et renoncerait à l'holocauste assuré par les centrales nucléaires, ça ne servirait à rien du tout, car encore et toujours, un petit village gaulois résiste à l'envahisseur écologiste, la bien nommée France, lumière atomique du monde, cancer de l'humanité, fou qui chie grave.
Une minute de recueillement pour cette blague. Et pour continuer sur les frontières, ce samedi 20 mai à Milan, il y avait une manifestation de 100 000 personnes en soutien des droits des migrants et pour un réseau international des villes contre le racisme et pour l'accueil des immigrés. Donc il y avait eu aussi en février une manifestation à Barcelone dans la lignée de ce réseau international de villes contre le racisme et pour l'accueil des immigrés, dont font partie pas mal de villes, Barcelone, New York, Boston, Chicago, Madrid. Un réseau, il y a Londres, Amsterdam, Athènes, Berlin, Los Angeles, Paris, Stockholm, Toronto, Varsovie. Bref, surtout, les 100 000 personnes à Milan ce samedi étaient composées de militants allant de la gauche modérée à la gauche radicale, des gens qui faisaient partie d'organisations politiques ou pas, certains d'organisations religieuses, des petits groupes d'immigrés ou d'Italiens. Ça a été l'occasion pour le maire de Milan de faire des grandes déclarations sur le fait qu'il serait en faveur du soutien des droits des immigrés. Le président du Sénat, pareil, a fait une grande déclaration en disant que qui est né en Italie est italien. Ce qui est assez drôle quand on sait qu'il soutenait Renzi, donc l'ancien chef de gouvernement du Parti démocrate, donc la gauche qui n'a jamais voté de loi pour accorder la nationalité aux enfants d'étrangers nés en Italie. Et qui, au contraire, a adopté des mesures répressives vis-à-vis des migrants, avec, par exemple, Minniti, qui est un peu le Valls italien, proche de Renzi, qui proposait une gauche sécuritaire et pas de régularisation pour les travailleurs sans papiers qui sont exploités en Italie comme en France.
Et il n'y a pas qu'en Italie et en France que les travailleurs étrangers sont exploités, c'est le cas aussi aux États-Unis. Et on va parler un peu politique américaine. Puisque Donald Trump...
transition de derrière les fagots. Magnifique.
Surtout, elle était très capillotractée, ça la punaise.
Et en plus, ça part de l'Arabie Saoudite où les travailleurs sont...
aussi exploités. Ouais.
Je pense qu'on va parler que de pays où les travailleurs sont exploités.
je pense que c'est une transition sans risque, finalement.
Bon, ça a fonctionné. Hein. Si personne n'avait...
Bon,
Il y a des pays où les travailleurs ne sont pas exploités. Hein.
Lequel?
J'ai rien dit.
Oui, donc Donald Trump a passé une semaine de merde.
Le qui passe.
C'est faux.
Chut. Donc, Donald Trump a passé une semaine de merde. Ça change pas beaucoup de toutes les autres semaines de son mandat, me direz-vous, sauf que la question de l'impeachment, c'est-à-dire d'une destitution du président, est de plus en plus débattue aux États-Unis. On en parlera, mais on reviendra également sur ses premiers déplacements à l'étranger, puisque le petit Donald a fait ses premiers pas en Arabie Saoudite et en Israël. Et il faut dire que le petit voyage de Trump chez ses copains impérialistes tombait plutôt bien, puisque tous les jours, une nouvelle info embarrassante sort dans les médias américains. Après avoir viré le directeur du FBI, James Comey, lequel a appris la nouvelle en regardant la télé lors d'un déplacement officiel, le Donald a été évidemment fortement critiqué. Ça lui a pas trop plu. Du coup, il veut tout changer. Il veut revoir entièrement son cabinet, peuplé de timbrés et de fascistes. Il va nous dégoter d'autres timbrés, d'autres fascistes, pour faire front avec lui face à l'insurrection de palais qui vient. Et il a bien besoin d'agiter ses petits bras en mousse, Donald dit nous. Car pas mal de trucs sont sortis depuis lundi dernier, et les bookmakers s'enregistrent de plus en plus de paris sur sa destitution, son impeachment donc. D'abord, on apprend que Trumpounet a essayé de comparer la taille de son impérialisme avec celle de ses petits copains russes, en leur balançant des infos confidentielles pour les impressionner. Puis, mardi, le New York Times révèle qu'avant de dégager James Comey, directeur du FBI donc, donne la houppette, lui a fortement conseillé d'abandonner l'enquête sur les liens entre son ex-conseiller à la sécurité nationale et la Russie. Les ingrédients ont bien mijoté dans la soupe journalistique et politique états-unienne pendant quelques heures, et paf ! Tout le monde a méchamment pété un câble. En tout cas, tout le monde a fait mine de bondir au plafond en criant « Nixon, Nixon !» La moitié de la rédac de CNN envisage de se laisser pousser sa cheveux pour ressembler à Dustin Hoffman dans Les Hommes du Président. Des congressistes et sénateurs démocrates en roue libre ont commencé à parler procureur spécial, à se rêver interrogateur en commission, comme ils ont vu à la télé. Le grand Trump y est allé de son petit tweet en parlant de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire des États-Unis. Communiste ou désignée comme telle, prétendue sorcière de Salem au XVIIe ou toute cible politique, religieuse ou raciale des flics américains de tout poil, fermez vos gueules, on a décoiffé l'arrêt de Erdrumpf. Et une fois que tout le monde a fait son petit tour de piste, braillait impeachment à cloche-pied dans le Capitole ou chouinait devant les bûchers de brindilles dressés dans tout Washington DC, bah, tout le monde a pris un Xanax et s'est calmé un bon coup. Jeudi, les leaders de la minorité démocrate au Sénat ont fait une conférence de presse. L'idée était de calmer les élus de leur parti, qui menaçaient très fort d'agiter plus encore les pales de moulin qui leur servent de bras. Parce qu'au Parti démocrate, faut dire qu'on craint la radicalisation de la base, ne riez pas, derrière de dangereux marxistes tels que Bernie Sanders, qui ferait pourtant passer Jean-Luc Chevènement-Manchon pour un Trotsky sous coke ou un McNo sous en fait. Mais par-delà ces escarmouches institutionnelles, il semble surtout que les membres du caucus noir du Congrès fassent part, d'après le New York Times, d'une montée forte de la colère signalée par leurs interlocuteurs communautaires. Par ailleurs, certains campus, comme celui de Berkeley en Californie, sont en ébullition, pardon, décidément, après les affrontements entre des fascistes revigorés et les étudiants. Et c'est en fait cela qui doit nous intéresser, la perspective, plutôt effrayante pour Trump comme pour les bureaucrates démocrates, d'une organisation à la base contre les politiques actuellement menées. Car si les scandales de cette semaine passée sont effectivement tout ce qu'il y a de plus scandaleux, ils ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a une classe qui subit les politiques destructrices de Trump après avoir subi celle des démocrates pendant 8 ans. Et cette classe pourrait bien profiter du chaos dans les classes dirigeantes pour imposer ses mots d'ordre et retrouver les passions révolutionnaires qui ont été celles du Black Panthers Party, des syndicalistes Wobbies ou des étudiants du SDS. Parce qu'une intensification de la lutte de classe dans la première puissance économique mondiale, ce serait un sacré clou de planté dans le cercueil de la bourgeoisie.
Ça, c'est bien dit. Et effectivement, si le grand Schtroumpf, il a du mal chez lui à conserver le décorum démocratique, lors de ses voyages en Arabie Saoudite et en Israël, il a beaucoup moins de mal à faire le job. Et je pense qu'on l'a briefé pour faire un sans faute, et c'est ce qu'il a fait. Alors, il nous a ressorti le grand coup du bien et du mal, d'accord. C'est la lutte qui se joue, hein, selon lui. Donc, effectivement, il fait partie du bien, ainsi que les Saouds.
Et comme avant lui, Barack Obama et Bush.
Et Bush, exactement. Et surtout, il a causé à ses alliés de l'Arabie Saoudite et leur a demandé de lutter efficacement contre le terrorisme. Quand on sait que l'Arabie Saoudite a allègrement financé la plupart des attentats terroristes, ou en tout cas des groupuscules terroristes qui ont sévi, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays du Proche-Orient, c'est rigolo. Alors, ce qui est assez marrant aussi, en l'occurrence, c'est les 300 milliards, ça c'est le canard enchaîné qui nous le dit, de contrats d'armement qui ont été signés sur 9 ans en Arabie Saoudite. Et derrière, le voyage en Israël, où il explique qu'Israël, justement, est la garante de la paix et qu'il y a une occasion merveilleuse, justement, pour construire cette paix. Justement, en offrant à Israël, enfin en offrant, en vendant à Israël 500 milliards d'armements. Car si on en offre 300 à l'Arabie Saoudite, il faut conserver justement la supériorité d'Israël en matière d'armement, justement pour préserver cette magnifique paix impérialiste, capitaliste qu'il promeut et qui ne l'empêchera pas de mener les prochaines guerres.
Sans transition, en Tchétchénie, où il y a eu la guerre pendant longtemps, par exemple.
40 ans, 3 génocides.
Ça aussi, c'est pas trop risqué, hein, je pense.
Ouais,
que...
voilà. On a beaucoup parlé de la persécution d'homosexuels avec la Novaya Gazeta qui avait révélé qu'au moins une centaine d'hommes homosexuels avaient été arrêtés, torturés, détenus dans des prisons secrètes. Donc, d'ailleurs, le porte-parole de la présidence tchétchène avait réglé assez facilement la question en niant et en expliquant que ce n'était pas possible puisque l'homosexualité n'existait pas en Tchétchénie. Et vendredi dernier, on a une autre nouvelle du Bangladesh où 27 jeunes hommes ont été arrêtés pour homosexualité en application de la loi qui criminalise les relations homosexuelles qui est héritée de l'Empire britannique. Donc il y a eu une descente de flics dans un centre communautaire de la capitale, Dhaka. Et on ne sait pas encore s'ils vont être poursuivis en vertu de cette loi donc criminalisant l'homosexualité, qui d'ailleurs d'habitude est peu appliquée. En fait, il paraîtrait que cette descente a surtout eu lieu quelques jours après l'ouverture d'un blog qui a été ouvert en la mémoire de deux militants du mouvement LGBT, tués à coups de machette chez eux par un commando qui se revendiquait d'Al-Qaïda. Et donc, un blog a été ouvert en leur mémoire qui contenait des messages critiques vis-à-vis des autorités qui n'ont absolument rien fait pour défendre ou protéger la communauté LGBT qui a dû cesser un certain nombre d'activités depuis cet assassinat de ces deux militants. Donc, le gouvernement utilise cette loi qui criminalise les relations homosexuelles pour réprimer toutes les voix dissidentes. D'ailleurs, il surveillerait même les journalistes bangladais à l'étranger.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h20 et c'est les infos. On passe au national.
Effectivement, on parle d'homophobie, mais l'homophobie se trouve aussi en France. Donc tout commence le 18 mai avec une blague, mais il faut savoir avec un bon millier de guillemets, d'Hanouna dans son émission TPMP. Il appelle des homosexuels pour faire des avances sous prétexte qu'il est à la recherche d'un partenaire. Alors, voilà le début. Mais malheureusement, cela ne s'arrête pas là. Nicolas Noguier, président de l'association Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes homosexuels rejetés par leur famille, a publié un message sur Facebook dimanche soir pour informer sur l'état de détresse morale épouvantable d'un jeune piégé par Cyril Hanouna. Il explique notre écoutant a dû échanger une grande partie de la nuit avec l'un des jeunes piégé par M. Cyril Hanouna et qui était dans un état de détresse morale épouvantable. Nous avons été fort démunis devant ses pleurs et sa peur d'être connu par ses parents et son entourage. Nous n'avons pas son numéro et nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Voilà ce que je ressens. Je suis inquiète. Après le harcèlement moral de Mathieu Delormeau, un chroniqueur de TPMP, suite aussi... comme d'habitude, entre guillemets, un gag, voici une dérive très inquiétante de cette émission. Si cette émission reflète la société, alors nous sommes en face d'une société qui écrase moralement les plus faibles, qui broie sadiquement les plus démunis au lieu de les aider. Juste pour rigoler. Désolé. Malheureusement, cet argument est souvent utilisé, mais reste faible dans son argumentation. Juste pour rigoler. J'ai vu quelqu'un écraser une merde sur la tête d'une personne. Juste pour rigoler, j'ai vu une personne se faire agresser. Et pour justifier cette agression, on lui rétorque. Il fallait s'y attendre. On ne sait pas ce qui s'est passé ou peut-être qu'il l'a provoqué. Jusqu'à quand on rigole? Jusqu'à la détresse morale intense? Jusqu'au suicide? Donnez-moi une réponse. Vous qui avez un argument, ce n'est pas si grave. Mais jusqu'à quand? Dites-le-moi. Ceci donne un relent de Tchétchénie ou de Bangladesh. L'humiliation ne serait-elle pas le premier stigmate du racisme? Rire de la détresse des autres ne serait-elle pas l'humiliation? Je vous laisse porter vos conclusions.
Et du coup, on va peut-être parler de GMS tout de suite?
Ouais, on peut. Peut-être qu'on peut peut-être un peu enfoncer Hanouna.
Ah bah, avec plaisir.
Parce qu'il y a quand même, il y a quand même.
Non mais il y a.
C'est pas des dérives là. Enfin, c'est pas une dérive de temps en temps là. C'est vraiment l'émission qui rabaisse le niveau et qui emmène les gens vers les bas-fonds les tréfonds de la pensée quoi.
C'est c'est touche le bas-fond et gratte encore.
Ouais, c'est ça.
Non, mais surtout sur la question de l'homophobie, il y avait déjà eu des sorties effectivement avec Mathieu Delormeau sur le sexisme, un des chroniqueurs dont j'ai malheureusement oublié le nom dans un endroit de mon cerveau auquel je ne souhaite pas accéder.
Je crois que c'est Jean-Michel Maire.
Voilà, Jean-Michel
Maire, des attouchements en direct,
qui avait embrassé les seins d'une meuf en direct en prétendant que c'était tout à fait normal, alors qu'elle lui disait non merci. Et voilà, a priori, c'est pas seulement des discours insupportables et un humour complètement
de merde,
complètement pérave. C'est aussi des pratiques complètement abusées. En fait, en plus, ils ont un espèce de truc avec ce qui pourrait être des formes de voilà, je perds mes mots, de bizutage en permanence. En direct, pendant les émissions, enfin...
Et il n'y a pas que nous que ça énerve, puisque ce matin, tôt, il y a une quinzaine de militants du mouvement LGBT qui ont repeint l'entrée des locaux du CSA avec un pochoir Hanouna, ouais. Producteur d'homophobie, et, CSA complice.
Et CSA qui a reçu 10 000 plaintes lors de l'émission.
Mmh. Oui, mais c'est pas la première fois qu'il y a une vague de plaintes.
Ou le CSA ne fait rien, oui.
Oui, donc on peut se poser la question de savoir...
Malheureusement, en fait, il fait une grosse audience. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils étalent l'ordure sur le poste télé. Et parce que ça fait de l'audience, ils pensent que c'est justifiable. Et on est pas loin de Jules César et du cirque romain, où tant que ça plaît, on y va. Et malheureusement, plus c'est crade, plus ça prête, ouais. Plus ça plaît, et plus on investit là-dedans, et c'est malheureux.
De toute façon, on ne fait pas forcément confiance aux organes de propagande de l'État ou de censure de l'État pour nous protéger de ça. Mais par contre, on salue quand même l'action des camarades qui ont repeint les entrées du CSA. Et on invite tout le monde à ce genre d'action.
Ils ont évoqué le fait de prendre d'autres cibles comme les sponsors de l'émission, les dirigeants du groupe Bolloré ou la production de Touche pas à mon poste. Donc on verra peut-être d'autres actions.
On se rappelle de Claire Chazal qui avait pris un saut de merde en descendant de sa voiture il n'y a pas très longtemps.
Ou plus Jadès qui s'était fait repeindre son scooter.
On va y venir.
On souhaite le meilleur à Hanouna et on espère que les Parigots, ils vont mettre le holà, quoi.
Mais j'ai cru entendre tout à l'heure que c'était peut-être pas une technique. Il y avait une certaine technique sous les temps des communistes, de l'URSS.
Le temps du communisme.
C'était
quand le c'était quand le temps du communisme?
Le temps du communisme, c'est demain, attention.
Non, mais vous m'avez très bien compris. Il y a un camarade qui m'a parlé tout à l'heure d'une technique comme quoi les homosexuels sous une dictature, on prétendait être homosexuel pour piéger les autres homosexuels.
Non, je parlais de, c'était moi qui en parlais et je parlais bien de la Russie d'aujourd'hui. Ce qui est assez sidérant dans ce que fait Hanouna, c'est que cette technique de se faire passer pour un homosexuel sur un site de rencontre, puis d'appeler une personne, est utilisée en Russie notamment, mais pas du tout pour faire des blagues, en fait, pour piéger les gens, les attirer dans des pièges et les tabasser, les humilier. Alors je dis pas que c'est ce que veut faire Hanouna, que c'est ce qu'il fait, mais vu la bande de crétins dont il est entouré et probablement les quelques imbéciles qui l'écoutent, même s'il n'y a pas que des andouilles totales, sinon c'est désespérant, mais on peut craindre que ça donne des idées à d'autres et des idées un peu de l'ordre de ce qui peut se faire en Russie.
On doit le craindre parce que c'est les auditeurs et les spectateurs, c'est surtout des jeunes quand même qui n'ont pas forcément le recul pour s'apercevoir que ça craint.
Voilà. On va transiger avec le prochain sujet. C'est toujours Canu Info du lundi. Il est 19h27. On est un peu à la bourre, alors on continue vite.
Et oui, on continue le feuilleton GMS. On en a parlé la semaine dernière, hein, rappelez-vous. Donc c'est une histoire qui se passe dans une petite commune de la Creuse, à la Souterraine. Et donc c'est les salariés d'un sous-traitant de Renault et PSA, donc l'usine GMS, qui avaient décidé de piéger leur boîte pour peser sur les négociations avec leurs clients historiques, donc PSA et Renault. Bon, si vous voulez plus de détails sur la genèse de cette belle aventure de sabotage, vous pouvez podcaster l'émission de lundi dernier. En plus, on a fait un super quiz que vous serez très contents d'écouter. Donc voilà, depuis l'État, en la personne de Bruno Le Maire, notre tout neuf ministre de l'économie, le renouvellement, tout ça, a décidé donc de s'immiscer dans les négociations. Et oui, parce que l'État détient quand même toujours 19,74% de Renault et 12,7% de PSA. Donc Bruno Le Maire a décroché son bigot, donc allô Carlos, gone pour Renault et Tavares pour PSA. Bon les gars, là les mecs de GMS sont vénères, ça fait 5 ans que vous les prenez pour des cons en foutant les repreneurs que vous voulez à la tête de leur usine. Les mecs se barrent les uns après les autres et vous arrêtez pas de baisser les commandes. La vérité là, l'entourloupe est un peu trop grosse, faut calmer le jeu, ils vont tout faire péter sinon. Et puis bon, la vérité, j'ai trahi ma famille politique, on vient juste d'arriver au pouvoir, faut acheter un peu la paix sociale et je veux surtout pas retourner au ministère de l'Agriculture. Donc faites un petit effort sur les commandes, hein, vous serez bien gentils. Allez, big bisous Carlos. Et les deux Carlos de promettent effectivement de nouvelles commandes. Donc la semaine dernière, c'était complètement mort pour ces commandes-là. Bon, entre-temps, je sais pas très bien ce qui s'est passé, mais vraisemblablement, Bercy a cru bon de relancer la machine. Donc il suffit parfois d'un petit sabotage hein, finalement pour remplir un carnet de commandes. Alors on se fait pas d'illusions, hein, c'est aussi le jeu du nouveau gouvernement qui tient à sa popularité juste avant les élections législatives. Mais toujours est-il que l'augmentation des commandes est vraiment significative, puisque PSA passe de 10 à 12 millions d'euros et Renault s'est engagé à doubler les siennes, c'est-à-dire de passer de 5 à 10 millions. C'est exactement ce qui manque, en fait, c'est exactement ce que les syndicats demandaient et c'est exactement ce qui manque pour qu'un repreneur puisse exploiter GMS et garder l'intégralité des emplois, c'est-à-dire 279 emplois. Alors, il y a demain, le tribunal de commerce de Poitiers va statuer sur cette reprise. Les repreneurs potentiels ont été choisis de nouveau par PSA, hein, comme c'est le cas des anciens repreneurs. Mais voilà, demain, le tribunal statuera sur cette reprise. Alors, les salariés ont appris la nouvelle dans les médias. Donc, ils restent un peu circonspects, hein, parce qu'ils n'ont eu aucune nouvelle directe. D'autant qu'il y a encore... Juste avant le week-end, on leur disait que c'était complètement bloqué, que c'était impossible pour PSA d'augmenter, et Renault d'augmenter leur commande. Donc, ils ont décidé de maintenir l'occupation, ainsi que le rassemblement qui est prévu demain à 15h devant le tribunal de commerce. En fait, l'enjeu est de taille pour eux, parce que ce coup de pouce ponctuel de l'État et ce coup de fil risquent simplement de ne pas se reproduire dans un an. Donc, en fait, c'est probablement juste un sursis qu'on leur laisse, avec d'ailleurs probablement des promesses de l'État faites à Renault et PSA, promesses qui, si elles ne sont pas tenues, risquent de nouveau mettre à mal la situation de GMS. Donc voilà, on salue leur décision de continuer l'occupation, parce qu'en fait, il n'y a que la construction et le maintien du rapport de force face à leur patron et à l'État qui leur permettra de maintenir leur emploi, ou bien de se réapproprier effectivement... l'intégralité des moyens de production.
De la Creuse, on repart à Paris. Malheureusement ou heureusement, je ne vais pas faire de transition et on part dans le quartier de la Chapelle. Donc, il faut savoir qu'un article est sorti dans Le Parisien en fin de semaine qui affirme qu'une partie du quartier de la Chapelle à Paris sera interdite aux femmes par la présence de trop nombreux hommes dans la rue, pour ne pas parler des réfugiés. Donc là, branle-bas le combat. L'article est immédiatement repris par tous les médias comme RTL, France Info, etc. Et le vendredi 19 mai 2007, le collectif SOS La Chapelle des élus LR et Valérie Pécresse se réunissent au pied du métro pour en appeler à l'intervention immédiate du nouveau gouvernement. Valérie Pécresse propose aussi une aide à la sécurité à tous ceux qui ont peur. Un budget sorti tout droit directement des caisses du Conseil général de l'Île-de-France et dont la mairie de Paris ne voudrait pas, selon Madame Pécresse. Bref, le feu aux poudres. La poudre est prête à éclater. Les femmes du quartier s'expriment et disent être mal à l'aise, non pas par la présence des migrants, qui sont discrets et plutôt protecteurs envers les femmes, mais vis-à-vis de cette polémique qui a pris une dimension nationale en quelques heures. Elles ne comprennent pas ce qu'elles nomment être une manipulation dont les visées sont clairement politiciennes à l'approche des législatives et dont les propos sont étonnamment repris par tous les médias sans contre-enquête. Bref, un fait divers qui a fait des choux gras de la classe politicienne en préparation des législatives.
On rappellera quand même que c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, parce qu'il y a eu le bar PMU de Sevran, qui a été quand même un scandale, qui a été un reportage qui a été démonté par Bondy Blog, qui allait enquêter, qui a vu qu'effectivement il n'y avait pas de problème. Et c'est toujours ce truc du féminisme blanc au service en fait de l'islamophobie, voilà, de l'ennemi intérieur, voilà. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'on en parle et on va en reparler bientôt. On va laisser tomber pour aujourd'hui une espèce de plan B du PS, parce qu'on n'a pas le temps, on est à la bourre.
Et on va continuer sur la veine des journalistes qui décidément ont beaucoup de mal à trouver de quoi nourrir leur boulot, leur sale boulot. Effectivement, ils ont l'air en mal de vedette, hein, les journalistes de la France entière. et ils s'esbaudissent de l'Apollon solaire qui, tel Louis XIV et Napoléon, illumine le chemin de grandeur de la France, la primaire nation, ni de droite ni de gauche, mais assurément fidèle à Panurge.
C'est beau ce
la
que tu dis.
La pyramide du Louvre, et oui, c'est beau la pyramide du Louvre aussi, hein. C'est pointu. La décomposition de la politique.
Et tout le monde sait bien que ce qui est pointu est beau.
Voilà. Voilà. Donc, le pointu, la décomposition de la politique, le renouveau des élites, la remontée des Champs-Élysées sur un véhicule de commando, tous ces signaux galvanisants construisent ce mirifique esprit de conquête, à peine entravé par le concert unanime de la presse objective qui titre admirativement ici et là le monarque, le héros, l'audace, génération Macron, et analyse finement que, malgré son parcours scolaire brillant chez les jésuites, puis à l'ENA, puis chez les Ricains, puis chez Rothschild, puis chez Hollande, il incarne ce dont la France avait vraiment besoin, un chef. Et c'est très marrant. Ce pélo encensé, le meilleur VRP du capital de notre génération Macron, qui navigue entre le « je suis d'accord avec vous » et le « je vais gouverner par ordonnance », veut faire ce que les autres Sarko & Co. n'ont jamais fait, annihiler les conquêtes sociales des prolétaires, maximiser le profit des capitalistes. Alors ces mêmes journalistes se récrient quand le monstre qu'ils ont contribué à créer referme la porte du sérail et, de manière décomplexée, par le doux euphémisme de communication présidentielle, annonce qu'il entend bien promouvoir la pensée unique et mettre au service de ses maîtres bourgeois la machine médiatique dont il est à la fois l'appendice et l'appendicite. Mais qu'on se rassure, le monarque, le chef, le renouveau, même quand il aura sa majorité, aura du mal à résoudre les contradictions internes à la bourgeoisie française. Et quand la vieille droite, rassurée par les commandes au complexe militaro-industriel, verra jusqu'à sa base de petits patrons, de pharmaciens, de notaires, etc., passer à la moulinette de l'ubérisation réclamée du protectionnisme, du patriotisme, quand la gauche molle et traîtresse verra sa base de fonctionnaires, d'artistes, de bobos, passer à la moulinette du management intégré réclamer plus de justice et d'égalité, quand de son mouvement En Marche il ne restera plus que le bruit des bottes, alors le monarque, le sauveur, le Napoléon, on verra bien sur quelle petite île fiscale de rien du tout il ira se planquer.
Ouais, on a parlé d'Hanouna tout à l'heure, de héros là tout de suite, de monarque, tout a heureusement une fin, et 16 ans à la tête du JT de France 2. Mon Dieu, David Pujadas, c'est David Pujadas à qui le réalisateur Pierre Karl avait en 2010 dans son film Fin de concession décerné la palme du Laquais d'Or. Donc le Laquais d'Or, c'était le chien de garde en chef au service du pouvoir bourgeois, n'hésitant pas pour Pierre Karl et ses potes à taguer à la bombe dorée son scooter devant les locaux de France Télévisions. David Pujadas a été remercié et écarté des programmes de France 2 par la présidente de France TV, Delphine Ernotte. Les motifs invoqués, innovation, renouvellement... Bon, le changement de gouvernement n'y est certainement pas pour rien. Le président Macron ayant signifié sa volonté de choisir ses journalistes, ses chiens de garde à lui. À quelque chose malheur est bon et l'on se réjouira de ne plus voir la gueule de Pujadas, du moins sur France 2.
Ça c'est clair.
Ça moi je suis triste, moi.
Ça n'est très certainement qu'à nous revoir, hein, mais aussi l'occasion de rendre hommage à cet ignoble individu à travers un petit best-of de ses 16 années à vendre au capital du
un
temps
quiz
de...
Quiz
yes
du... Non, ses 16 années à vendre au capital du temps de cerveau disponible. Retour en 2001. Le 11 septembre, David Pujadas est présentateur du JT de 20h de France 2 depuis 8 jours.
Jean-Claude Van Damme.
Laissez-moi. En début d'après-midi, un premier avion s'écrase sur une tour du World Trade Center, en plein cœur de Manhattan.
Ben Laden.
Et là, waouh ! Waouh, génial !
Ouais !
C'est le présentateur en découvrant les images devant les caméras de Canal+, qui le suivent alors pour un reportage sur les coulisses du 20h de France 2. Il ne sait pas encore que le double attentat va faire des milliers de morts et marquer le début d'une nouvelle ère. Génial, la réplique collera à la peau de l'animateur, figurant en bonne place sur sa page Wikipédia. Bon, on continue. En 2010, dans un documentaire diffusé sur Arte, 8 hommes en colère, Pujadas donna sa définition de l'indépendance journalistique. L'essentiel, à ses yeux, c'est la lutte contre la bien-pensance. Entendez par bien-pensance, alors là j'ouvre les guillemets, l'idée que par définition, le faible a toujours raison contre le fort, le salarié contre l'entreprise, l'administré contre l'État, le pays pauvre contre le pays riche, la liberté individuelle contre la morale collective.
L'esclave contre son maître.
Voilà.
La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Que son journal véhicule une idéologie cachée, Pujadas mettra plusieurs années...
C'est que des citations. Ouais.
Que son journal véhicule une idéologie cachée, Pujadas mettra plusieurs années à en convenir. Et sur un point très particulier. En décembre 2016, il confessait dans l'hebdomadaire Society « Oui, il y a une idéologie cachée » dans le 20h de France 2. Et là, j'ouvre les guillemets à nouveau, le journal véhicule sans doute une vision du monde, l'idée implicite que le salut et le bonheur résident dans la consommation ou l'accumulation des richesses. Alors que je ne suis pas sûr que dans 30 ans, cette vision productiviste et matérialiste, bon, notez l'adjectif matérialiste, du monde sera aussi évidente. Avant de conclure, la croissance non mesurée, l'attention portée aux autres, tout ce que l'on passe à échanger des services, les relations de voisinage, c'est essentiel dans une société. Mais on ne le traite pas. En ce sens, oui, il y a une idéologie cachée. Le pauvre Pujadas aliéné qui fait le job alors que derrière ce manipulateur sanguinaire se cache un cœur d'altermondialiste décroissant. Impossible d'être exhaustif ici.
Ce qui n'est pas beaucoup mieux, hein. En fait.
Car au fil
je valide.
Impossible d'être exhaustif ici, car au fil de ces près de 600 JT, les perles ne manquent pas. Le traitement des mouvements sociaux toujours au poil, on se remémorera un entretien avec Xavier Mathieu au soir du saccage de la sous-préfecture de Compiègne par les ouvriers de Continental. Donc en gros, il appelait Mathieu à condamner la violence des salariés. Ou bien...
Mais quand même,
vous condamnez la violence. Et là, Mathieu lui dit, on ne condamne pas la violence, absolument
pas. La violence qu'on condamne, c'est celle des patrons, celle de la préfecture qui valide les
traquages.
D'autant que Xavier Mathieu, il dit bien qu'en fait, jusqu'à ce jour-là, il ne croyait pas dans la violence et que ce jour-là, il s'est rendu compte qu'en saccageant la préfecture, ils avaient enfin eu un rendez-vous. Et que du coup, à ce moment-là, il s'était rendu compte qu'il n'y avait que la violence qui marchait face à ces ordures.
Et effectivement, quand tu pièges ton usine et que tu menaces de saboter l'outil de production, effectivement, en quelques jours, la situation elle se débloque alors qu'elle était au point mort depuis le mois de décembre pour ce qui est de, par exemple, des salariés de GMS. Cette violence-là, si tant est qu'on choisisse de la qualifier de violence,
alors que ce n'est qu'injustice.
Ouais, donc Pujadas face aux mouvements sociaux et à la grève, donc on se remémore aussi le traitement réservé aux salariés d'Air France au moment de la fameuse affaire de la chemise arrachée. Et là, il y a un son.
Bienvenue à tous. Il y a donc des images qui ne passent pas. Les scènes de violence hier à Air France ont fait le tour du monde et elles prennent une tournure politique. Je vous le disais, Manuel Valls n'a pas mâché ses mots. Il évoque des agissements de voyous. Magali Boissin, Christophe Kenck.
Voilà, pendant la campagne électorale de 2017, le 20
ans... J'ai vu ces images, j'ai dit génial.
Mais surtout qu'il y a un truc qu'il faut dire, il faut aller sur ina.fr et aller voir, taper grève Air France et regarder l'historique. Il y a une grève il y a 20 ans où les pisteurs se battent contre les CRS sur la piste, casqués avec des boucliers en leur balançant des palettes dans la gueule, et le commentaire n'est pas du tout le même. Donc le décalage en 25 ans, en l'occurrence, est assez sidérant.
Ah, voilà. C'est grâce à Pujadas. Donc pendant la campagne électorale... Ah, on continue comme un petit peu. Pendant la campagne électorale de 2017, le 20h de France 2 s'est aussi fait remarquer en diffusant, le 7 décembre 2016, un reportage intitulé « Quand les femmes sont indésirables », qui montrait un bar PMU de Sevran interdit aux femmes. Problème, de fait, le bar n'était pas du tout interdit aux femmes, comme le prouva ensuite une contre-enquête du Bondy Blog. Malgré ce net démenti, Pujadas n'est jamais revenu dans son JT sur ce reportage qui avait pourtant largement été infusé dans le débat politique, à gauche, à droite et bien entendu à l'extrême droite. Il acquiesce même pendant l'entre-deux-tours quand Marine Le Pen, invitée dans son émission, reprend l'argument du PMU de Sevran où les femmes sont interdites, et lui là, il fait « Ah oui, et on voit vraiment un acquiescement, de David Pujadas. » Voilà. Pujadas viré, mais pas d'illusion. La relève ne fera pas de cadeaux, le service public rôde de faits divers en propagande sécuritaire, faisant les choux gras des propagandes guerrières et islamophobes. Pujadas est viré après 16 ans de bons et loyaux services, preuve d'une oligarchie sans pitié. Avis aux suppôts du grand capital, quand bien même vous servirez la soupe, remuerez la queue et en rentrant avec zèle dans les rangs, on vous jettera comme un Kleenex sale ce que vous êtes en somme. Quant à nous, conscients du caractère systémique du rôle joué par les éditocrates et direction de JT Mainstream, inaugurons en hommage au laquais d'or un slogan génial. Tout le monde déteste David Pujadas.
Tout le monde déteste les journalistes.
Tout le monde déteste la télé.
Oui, mais c'est ça en fait. C'est...
Oui, et... Après Pujadas.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule.
Ah
transition.
J'allais faire ma propre transition pour une fois, comme un grand. Donc, après Pujadas, bonne nuit, beau prince. C'est un autre grand nom du journalisme engagé qui nous quitte. Ce petit air mutin, ses lunettes, ses cheveux dans le vent, ce cuir usé sur les barricades. Mais oui, Michel Fields s'en est allé, tel Jack London, le sac sur l'épaule. Il s'est tourné lentement vers moi et m'a fait un clin d'œil complice. C'était affreux. Ce matin, Michel Field a sauté, comme le bon fusible qu'il était. Directeur de l'info sur France Télévisions, il avait réussi à se mettre à dos une bonne partie des journalistes. Quelques mois après sa nomination, en 2016, il avait déjà fait face à une motion de défiance, un peu autoritaire sur les bords. Balançant sur la qualité de l'info de France TV sur une chaîne concurrente, Field faisait déjà à l'époque tout ce qu'il fallait pour se faire inviter au goûter d'anniversaire de ses collègues. Élégant et chiracien, pléonasme, il dit d'une grève qu'elle lui en touche une sans faire bouger l'autre. Impossible de citer tous les faits d'armes de l'ami Michel, qui s'autorisa notamment quelques sorties sexistes sur des journalistes, ou encore des pressions contre Élise Lucet pour un sujet mettant en cause Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion en septembre 2016. Mais ce qui lui a coûté son siège, déjà franchement éjectable depuis quelques mois, c'est en fin de compte le cirque autour du départ de l'ami David, RIP joli cœur. Il faut dire que le futur ex-directeur de l'info n'avait rien trouvé de mieux dans ce contexte que de se mettre à critiquer la qualité de l'info sur sa propre chaîne dans Libération.
Je fais de la merde, c'est ça qu'il dit le mec en fait.
Ouais. Enfin, il dit plutôt les gens qui sont autour de moi font de la merde, je suis un incompris, etc. J'ai proposé des super formats, mais personne n'en voulait. Enfin, c'est un peu l'idée. Hein. Mais ce matin, une AG des journalistes de France TV, passablement énervée par le limogeage de leurs champignons du 20h, avait menacé très fort de soumettre une motion de défiance visant toute la direction de France Télévisions et non plus seulement Michel Field. Field est donc parti, parce que dans le middle du journalisme total, on ne transige pas avec certaines valeurs. Si on peut mettre son copain devant soi pour servir de bouclier, c'est pas mal. On ne te regrettera pas, Michel, mon bel. Pas plus que nous ne regretterons David, la soupière bien lustrée de la classe dirigeante. Car nous savons que d'autres merveilleux petits chefs, d'autres formidables lèche-bottes, d'autres magnifiques andouilles cravatées attendent pour prendre votre place et qu'ils l'auront.
En attendant, s'ils peuvent s'entretuer, on n'y voit pas d'inconvénient.
Aucun. Allez, sans transition, on a tous à y gagner.
On va tous continuer. On va continuer dans la série des disparitions. Enfin, là, on parlerait plutôt d'une mutation. Donc, on a tous le souvenir, en fait, du doux service public de notre enfance, qui était la Poste. On a tous ce magnifique souvenir qu'à travers la neige, on voyait cet homme, cet individu.
Le Père Noël ?
Pas loin. Mais pas, il n'était pas rouge, mais cette fois, il était bleu et jaune, et qui nous apportait effectivement nos cadeaux d'anniversaire et puis aussi nos feuilles d'impôt. Une grande problématique est arrivée depuis un certain nombre d'années. On pense, les scientifiques pensent que ça serait dû au réchauffement climatique, mais personne encore n'arrive à le prouver. En tout cas, une mutation sévère commence à toucher cette espèce qui, en voie de disparition, va fortement évoluer. Ainsi, le mail ayant fait son apparition, de plus en plus de postiers commencent à être en surnombre, selon en tout cas leurs dirigeants. Ces mêmes dirigeants éclairés ont donc essayé de trouver des solutions à ce problème. Donc comment occuper ces millions de feignants qui passent plus de temps à prendre le café chez les grands-mères qu'à travailler à distribuer le courrier qu'on leur a demandé ? La solution est donc digne d'un véritable film d'horreur. Ainsi, au lieu de leur donner plus de travail, on leur a carrément imposé une véritable mutation génétique en leur demandant de mettre de coudre sur leur tête différents masques. Autrefois, nous avions donc cette image du postier bien simple, et maintenant, en fonction de l'heure et du lieu de travail, ce nouveau postier 2.0 sera aussi maintenant banquier, fournisseur de services web, fournisseur en téléphonie, pourra vous transporter des colis, pourra vous aider à passer votre permis, et bientôt, quoi d'autre ? Maintenant, quoi d'autre ? Tout simplement, hein, grâce à la magie d'une OPA boursière, la Poste a encore évolué. Un nouveau visage est apparu sur la tête de ces personnages. Ainsi, pour la somme maudite de 20 à 100 euros par mois, le facteur passera voir nos aînés et s'inquiétera de leur santé. en dehors du fait que ce travail nie totalement le véritable travail des aides à domicile qui font déjà ce travail et demande une véritable nie les véritables compétences que ça nécessite, les syndicats de postiers rappellent que simplement on va maintenant faire payer un service que la plupart des postiers, personnalités préférées des personnes âgées, il faut le préciser, faisaient déjà à l'heure actuelle gratuitement. Ainsi, le petit café que le postier venait boire chez la grand-mère en demandant des nouvelles et en informant la famille, et ben maintenant il sera payé pour faire la même chose. Il sera obligé de le faire, donc un certain nombre de personnes qui n'ont absolument pas les compétences et pas l'envie de le faire vont devoir passer et faire ça. Les syndicats se posent la question de comment faire lorsque, justement, ce qui est un risque qui est évidemment lié à ce genre d'activité, les postiers vont pouvoir constater des décès. Donc, est-ce qu'ils devront attendre que les pompiers ou simplement refermer la porte, envoyer un SMS comme c'est prévu à l'heure actuelle à leur direction et continuer leur tournée? On a donc cette véritable. Nous arrivons donc dans cet univers magique où un individu a une dizaine de casquettes en même temps. Ou bientôt, en fait, il nous faudra payer pour demander notre chemin, et bientôt nous prendrons des forfaits à la poste pour respirer l'air que nous respirons. Mes chers amis, je vous le dis, bienvenue en Macronie.
Ouais, c'est les facteurs 10.0, là.
Ou 0.10.
Rendez-nous les PTT.
Sans transition,
oui, voilà.
On va avoir le plaisir de vous parler de l'homme avec un grand M, qui va former les générations futures à travailler chez McDonald's.
Et être le chef d'un certain nombre d'entre nous, pour ne pas vous le cacher.
Exactement. Donc, un certain Blanquer, hein, à ne pas confondre avec
Pas tous,
avec,
hein, d'entre nous.
Auguste Blanquer.
Pour ne pas vous le cacher.
Voilà.
On n'est pas tous des planqués de l'éducation nationale, à vous.
Exactement. Alors, en fait, pour de vrai, hein, on voulait vous faire la petite bio de Blanquer, vous expliquer que c'était un colonialiste, qu'il avait défendu bec et ongle la colonisation positive, que son objectif, c'était de transformer l'école en entreprise et de bourrer le mou aux parents et aux enfants pour en faire de la chair à patron. Mais vu qu'on n'a pas le temps...
Oui, vous aviez préparé un truc super carré.
Exactement,
en plus. Hein.
Exactement.
Je vois les tonnes de notes que vous avez sous les yeux, là.
Donc, du coup, on va pas vous prendre la tête.
On le fera la semaine prochaine.
C'est ça. En sachant que Blanquer, quand même, recteur de Guyane, recteur de Créteil, également à la CGESCO, qui a piloté...
Oui, il était en fait le second de Luc Châtel quand il était donc le ministre de l'Éducation nationale sous l'UMP. Et voilà, il était bien dans les clous. C'est lui qui a appliqué les suppressions de postes, des programmes bien fondamentaux.
La France.
Voilà, la France.
La France. Donc c'est Blanquer, Frochot.
On sent un peu nos journalistes concernés par cette nomination.
Ouais, et surtout,
on n'a rien à branler, les salauds.
Ce gouvernement nous ramène tous les seconds les fonds de casserole. C'est hallucinant, quoi. On a les raclures, quoi. C'est horrible.
Oui, c'est ça.
Bon, et puis on perd aussi des meilleurs, hein, souvent. Et en l'occurrence, donc Jean-Marc Rouillon. Vient d'être condamné à nouveau. Donc Jean-Marc Rouillon, donc militant d'extrême gauche, donc au MIL d'abord en Espagne, c'est le mouvement ibérique de libération, donc antifranquiste, puis au GARI, c'est le groupe d'action révolutionnaire internationaliste. Puis ensuite à Action Directe, c'est pour ça qu'il est célèbre, puisqu'il a été condamné à perpétuité en 1989.
Pour un petit meurtre.
Pour deux assassinats, deux assassinats entre amis. Le premier, de l'ingénieur général de l'armement, René Audran, et en 86, du PDG de Renault, Georges Besse, qui avait...
C'est terrible, j'ai l'impression que j'avais dérapé d'un instant à l'autre. Non, voilà, je me contenterai de dire ça. Démerdez-vous avec ça.
Contrairement à Cyril Hanouna et à la perversion de la jeunesse qu'il effectue, nous tenons à préciser formellement que ce n'est pas bien du tout de tuer des patrons.
Non, de tuer des gens.
Bah,
patrons. C'est excusable. Ça se discute.
Ah, voilà. Allez, on est sur Radio Canu. On est sur Radio Canu et moi je pense que l'expropriation est une bonne technique qui évite d'en arriver aux mains.
L'expropriation de leur propre vie.
Il y a un fond le cadre légal.
5 minutes d'émission, on est sur la corde raide.
Bon. Donc depuis 2011, Jean-Marc Rouillon bénéficiait d'un régime de semi-liberté. Donc semi-liberté, comme on va vous dire, le mec il travaille chez Agone à Marseille. Donc Agone c'est son éditeur parce qu'il a écrit de nombreux bouquins.
Horrible.
Et laissez-moi un peu terminer parce que tous les jours T'as toutes les nuits, il doit rentrer dormir au centre de semi-liberté et le week-end, il est au centre de semi-liberté. Donc c'est quand même, mec, il a fait 25 ans de tôle, il a été en cellule d'isolement pendant plusieurs années et il a encore semi-liberté à 65 ans, quoi. Enfin, c'est.
Alors que les preuves n'ont pas été formellement.
Et il y a quelques mois, pendant le mouvement loi travail, après les attentats du 13, mais tardivement, il répond à une interview sur Radio Grenouille. Donc c'est quand même pas France 2 ou voilà, Radio Grenouille, une interview par l'équipe du Ravi, qui est un média
c'est
alternatif.
C'est un peu le Radio Canu des Batraciens.
C'est hein. Ça, je pense. Donc, un média marseillais, indépendant, une radio un peu du... voilà, et donc, en fait, il a le malheur de dire, parmi tant d'autres choses, puisqu'en fait, il parle des attentats, il s'exprime là-dessus, c'est là-dessus qu'on lui demande de s'exprimer, il dit notamment que ces gens sont des réactionnaires, que c'est idiot de faire ça, que c'est des ennemis.
Enfin, il dit même plus que ça, idiot, c'est un euphémisme.
Ah non, c'est parce qu'il a dit idiot, en fait, il les a qualifiés d'idiots. Il a dit que c'est des ennemis, des réactionnaires, et il dit, mais... que c'est faut pas non plus les traiter de fous et de voilà que ces gens sont conscients et que en fait ils arrivent à trouver le courage de faire ça et il les qualifie de courageux et pour ça il est condamné par le tribunal. Il fait appel et la cour d'appel vient de statuer à travers une condamnation pour apologie du terrorisme pour la seconde fois, donc puisqu'on est en cour d'appel, et il chope 18 mois. 18 mois, dont 10 mois avec sursis, mais 8 mois ferme. Donc il va bénéficier, aménageable, vu son âge, d'un aménagement. Mais bon, on voit bien que ce mec qui continue à sillonner la France et même l'Europe pour essayer de motiver les troupes, parce qu'il n'a jamais renoncé au militantisme et au communisme, à l'internationalisme, etc. On essaie de le faire taire de plus en plus, comme on a toujours essayé de faire taire tous ces gens qui essayent de renverser la barque.
Voilà, et malgré tout, on prendra le risque de dire que Jean-Marc Rouillant est courageux.
Ok, bon, on va arrêter de parler des momies, on va parler du futur maintenant, avec le nouvel épisode qui vient. La loi travail, tome 2.
Oui. Je ne valide pas, moi.
Pas en mon nom.
Not in my name. Jean-Marc Rouillant, tu n'es pas une momie.
Non, on mais t'aime. C'est un ancien, qu'on le veuille ou non, ça, c'est... Mais bon.
Désolé, on ne contrôle pas l'ensemble des animateurs.
Donc la loi travail...
On essaie
tous de s'auto-censurer, mais on n'y arrive pas. Donc la loi travail 2, le retour. Donc vous pensiez en avoir assez? Eh bien non. Vous pensiez que plusieurs mois de grève et de blocage du pays avaient suffi à faire passer un message à nos gouvernants? Eh bien toujours non. Dans James Bond ou un super méchant de mauvaise série B, Macron revient en super-héros pour une nouvelle fois de plus essayer de sauver la princesse Medef. Voulant à tout prix passer cela en plus pendant l'été, pendant que l'ensemble des honnêtes gens, eux, sont à la plage, Macron, que ni le soleil ni le sable n'arrêtent, a donc décidé d'en finir avec ce code du travail qui doit tant le déranger. Digne héritier de son papa Hollande, qui a donc essayé de faire passer une première version, il souhaite, pour simplifier, que les conditions de travail et les salaires notamment soient négociés au plus près du terrain. Donc là, si on peut imaginer une négociation version combat à debout, ça promet fortement. Ainsi, nous vous proposons de, avec les élections qui arrivent, en fait, de vous abstenir pour éviter de faire en sorte que ce guignol ait une majorité, ce qui lui permettrait de ne pas passer tout son programme totalement hallucinant, et que de toute façon, on vous promet tous d'être dans la rue dans les 6 prochains mois, et puis si vous n'avez rien à voir à foutre de votre été, ça pourrait être pas mal de préparer la rentrée qui risque d'être explosive.
Le 19 juin, il y a une belle manif.
Oui, mais 19 juin, il y a une belle manif, mais les saloperies de loi qui nous proposent ne seront pas encore là, donc il faut se préparer pour quand ça arrivera.
Ouais, manif de momie, hein.
C'est probable aussi.
Zombie Day.
Zombie Day.
Sans transition.
Oui, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h57. Il nous reste 3 minutes pour faire l'actualité locale. C'est parti.
Et on va parler d'un barbecue, hein, papa.
Allez.
Hop. Barbecue.
Hop, alors, Vaux-en-Velin, donc il y avait hier dimanche un barbecue à Vaux-en-Velin.
C'était pas une référence à Georges Besse.
Donc, Mehdi, ce jeune qui venait d'avoir un enfant et qui le soir de la naissance de son enfant s'est fait renverser par une voiture de police en scooter et qui a trouvé la mort. Donc la famille et le collectif de soutien à la famille de Mehdi est toujours actif et a organisé dimanche un barbecue à Vaux-en-Velin. Bonne ambiance, spéciale dédicace à Benji, le rappeur qui a posé comme ça dans le parc avec une petite sono. C'était assez courageux et c'était chouette. Pas beaucoup de monde, mais il fallait s'y attendre et ça continue avec
les gars. On rappelle juste que la famille de Mehdi a besoin de plein voilà, de oui. thunes pour pouvoir payer les avocats
lors d'une manif pour demander justice et vérité pour Mehdi, la sœur de Mehdi a été accusée de propos diffamatoires envers la police parce que les manifestants criaient
vérité et justice.
Non, ils criaient tout le monde déteste la police. Hein, faut voilà. vraiment dire, c'est pour ça. Et en fait, c'est elle qui l'attaque.
Il y a une page Facebook Vérité et Justice pour Mehdi. Donc pour suivre l'actu, n'hésitez pas à aller voir. Et surtout, il faut continuer à organiser la solidarité.
Pour Mehdi, voilà. Vérité pour Mehdi.
Vérité pour Mehdi. Et voilà, il faut organiser la solidarité financière. Parce que c'est le nerf de la guerre.
Et plus sérieusement, bravo à cette famille qui tient bon et qui s'accroche, quoi. Et voilà, bravo.
Pour revenir rapidement sur la UTIT, on aimerait féliciter et remercier tous les copains qui sont venus et qui ont permis en fait, de fêter les 40 ans de Radio Canu, qui ont été une super fête pendant tout le week-end. On va faire ça très court, donc longue vie à la radio. Merci à tous d'être venus parce que c'était quand même génial. On a super bien mangé, on a super bien fait la fête, c'était super cool.
Et une dernière bonne nouvelle pour la route.
On termine avec la reconduction de la grève à Fézin. Donc les raffineurs postés de la raffinerie de Fézin ont reconduit encore une semaine, donc pour la troisième semaine, la grève qu'ils mènent pour leurs conditions de travail. Et
il nous reste 20 secondes pour rappeler que mercredi soir, il y a une AG de lutte à la Bourse du Travail à 18h pour organiser la suite et essayer de faire face dès maintenant et s'organiser face aux différentes ordonnances qu'on va se prendre dans la gueule et face à, effectivement à la prochaine.